droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International Évreux qui revient comme tous les mois, le dernier mardi de chaque mois, pour vous parler de l'actualité des droits humains, pour vous parler de nos campagnes, pour vous parler de nos actions en cours, pour vous parler de nos réussites, pour vous parler aussi de ce qui marche moins bien, ça arrive, mais surtout pour vous parler de solidarité internationale et de droits humains, c'est notre raison d'être. Avec, comme tous les mois, on est très content de retrouver tous les auditeurs et auditrices de Principe Actif. Avec moi autour du micro, il y a Sabine.
Bonsoir.
Edith.
Bonsoir.
Ronan, derrière les manettes.
Bonsoir.
Et moi-même, Didier. Les droits humains en France, on peut en parler suite à l'actualité. On ne va pas parler de politique précisément, mais on va quand même rappeler deux ou trois petites choses, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement se déroule une période électorale qui marque, on appellera évidemment à voter pour aucun candidat, c'est pas du tout le rôle d'Amnesty, ni notre but, mais simplement on va quand même rappeler deux ou trois petites choses très générales. Il y a une formation politique qui s'appelle le Front National, pour ne pas le nommer, qui a, on dira, le vent en poupe au niveau de ses résultats. Et bien, il faut quand même dire qu'effectivement, cette formation a quand même pris un certain nombre de positions qui sont très difficilement compatibles, on va employer des euphémismes, très difficilement compatibles avec les droits humains fondamentaux. Donc, quand on vote, il faut effectivement toujours y penser. Pour étayer mon propos, je vais vous relire deux ou trois articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Je te vois avec la grande déclaration.
La grande déclaration, il y a une trentaine d'articles. Heureusement, je vais vous en lire que deux ou trois.
Oui, mais c'est bien de rappeler.
Alors, dans le générique, on a entendu que, vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est pas dans un esprit d'exclusion, c'est exactement l'inverse.
Mais je suis déçu que tu ne connaisses pas par cœur comme ça.
Je ne connais pas par cœur.
Vous vous rappelez le clip dit par Michel Serrault ?
Oui.
Esprit de fraternité. Oui. Ah oui.
Et il avait ajouté, Edith ?
J'attends que tu.
Trou de mémoire.
Non, pas trou de mémoire.
Il avait ajouté, et c'est ça qui fait chier.
Voilà, fraternité.
Et il y en a certains qui le pensent toujours. Voilà. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Ce qui veut dire que c'est les droits des gens qui sont importants et que les droits sont fondamentalement égaux. Peu importe leur situation, il n'y a aucun distinguo à faire. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 13, on va en sauter là, effectivement. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Eh bien oui, quand on dit effectivement qu'il faut mettre des barrières et qu'on va accepter qui on va vouloir, toute personne a le droit de circuler librement et de s'installer où il veut. Article 14, dans la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ça, on va en reparler aussi tout à l'heure quand on va parler de la Syrie. On va vous en dire quelques mots qui sont en rapport avec cet article 14. Enfin, le dernier article, l'article 22, toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle maintenant. Elle est fondée à obtenir toute la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que dans le programme du Front National, il y a quand même, parce que j'en connais quelques trucs, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je connais quelques trucs, il y a quelque chose qui m'a toujours profondément heurté, enfin, entre autres, c'est le fait que de toute façon, si jamais ils arrivaient au pouvoir, il y aurait une distinction entre les droits sociaux des Français et les droits sociaux des travailleurs étrangers installés en France. Et ça, d'abord, c'est contraire à la Constitution française et c'est contraire à l'article 22. Donc, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il faut bien se rendre compte que voter pour le Front National, c'est pas seulement, effectivement, pour manifester un désaccord. On entend beaucoup de politiques qui disent ça. Oui, c'est pour manifester un désaccord. C'est aussi voter pour des gens qui ne respectent pas, de fait, les droits fondamentaux. Et on est quand même dans une société où les droits fondamentaux, bah, c'est important de les conserver.
Et puis, ils sont universels.
Voilà. Il faut aussi se rappeler que cette déclaration universelle, enfin, ça, on l'avait déjà dit il y a bien longtemps, mais au début de nos émissions, c'est qu'elle a été adoptée en 1948 à l'unanimité par l'ONU et qu'elle est applicable dans tous les pays du monde à l'heure actuelle. Donc effectivement, il n'y a pas d'exception, quel que soit, même si on s'appelle Marine Le Pen ou pas Marine Le Pen, aucune différence. Donc voilà, ça, il faut effectivement s'en rappeler. Puis je terminerai ma petite intervention en disant, je vais faire de la pub pour une autre radio, les copains de Principe Actif m'en voudront pas. Mais si vous avez un peu de temps, allez sur le site de France Culture. Il y a la rubrique d'une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et il y a 4 émissions qui ont été diffusées au mois d'octobre. Enfin, vous avez les podcasts, hein, vous retrouverez assez facilement. 4 émissions qui ont été diffusées au mois d'octobre et qui rappellent l'expérience de 4 villes françaises qui ont été, dont Orange, Toulon, j'ai oublié les autres, qui ont été dirigées par le Front National à une époque ou une autre et s'adressent un portrait du côté catastrophique de la gestion des municipalités dans ces villes-là. Donc voilà, pour ceux qui effectivement se disent « Oh, comme les autres ne nous satisfont pas, tentons l'expérience ». Ce n'est pas une expérience à tenter. D'ailleurs, elle a déjà été tentée dans pas mal de pays, l'extrême droite. On a toujours vu les conséquences. En général, les conséquences, c'est très rapidement des millions de morts. Si on veut éviter ça, effectivement, il faut toujours y penser. Donc, effectivement, on appellera encore une fois pas à voter pour qui que ce soit. Mais il y a des droits fondamentaux, des principes fondamentaux qui régissent les relations des êtres les uns envers les autres. Et il faut toujours s'en rappeler, surtout quand on dépose un bulletin de vote.
Voilà. Fallait que ça soit divisé.
Donc, ce soir, on va vous parler d'une suite d'une action dont on vous a déjà parlé qui s'appelle les Trois d'Angola. Je ne vous en dis pas plus. Edith va vous détailler davantage. On va vous parler du bilan de notre action Syrie. On a fait une action Syrie le 15 février. On va vous en reparler aussi. On avait parlé de la dernière émission. Vous avez peut-être vu dans la presse, effectivement, quelques comptes rendus. On va vous en parler. On va vous parler aussi de la Corée du Nord, parce que l'actualité récente nous a amené à reparler de la Corée du Nord. Et puis de bonnes nouvelles, et puis de choses diverses, comme d'habitude. Plein de choses d'ici 20h sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Bah, Edith, je crois que c'est à toi de prendre la suite.
Sabine va venir aussi avec moi. On va lire... un petit peu. Donc, les Trois d'Angola, c'est 3 hommes, c'est en Amérique, à Angola, et ce sont 3 personnes, enfin essentiellement 2 personnes, parce qu'une a déjà été libérée, c'est Robert Keane, pour qui on a appelé à signer dans les 10 jours à signer en décembre, et donc pour qui on va être attentif pendant toute l'année. On vous en a reparlé aussi parce qu'il y a eu une nouvelle terrible, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a été libéré, mais il a été libéré souffrant d'un cancer et il est mort quelques jours après.
Trois jours de liberté
pour aller mourir à l'hôpital. Et là, on continue toujours à suivre parce qu'il y a encore Albert Woodfox et lui, il est encore emprisonné. Il y a une pétition sur le site d'Amnesty parce qu'il est repassé en des documents au niveau de la justice en janvier et la réponse va être donnée en fin mars. Donc, il faut aussi continuer à signer, à montrer que l'on connaît, qu'on est vigilant. Et là, ce que j'ai trouvé sur le site d'Amnesty et qu'on ne savait pas, c'est que la veuve de la personne qui a été tuée a une position complètement étonnante, c'est-à-dire qu'elle pense que Albert Woodfox et Herman Wallace ne sont pas coupables. Donc on va vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment elle en est arrivée là et comment effectivement les dysfonctionnements de la justice américaine peuvent être importants.
Je t'interromps une seconde, mais qui dit dysfonctionnement de la justice, c'est toujours l'argument principal qu'on a pour l'abolition de la peine de mort. La justice étant de toute façon forcément sujette à erreur, on ne peut pas condamner les gens à mort, sinon on tue des innocents.
Voilà, donc alors on va se remettre un peu dans l'époque. Donc on est le 17 avril 1972. Donc cette date restera gravée à jamais dans la mémoire de Leontine Rogers. Ce jour-là, cette apprentie esthéticienne de 17 ans, connue sous le diminutif de Tini, s'est levée tôt. Elle a pris son petit déjeuner, puis a déposé son mari, Brent Miller, 23 ans au travail. Il était gardien à la tristement célèbre prison d'Angola, dans l'état de la Louisiane, aux États-Unis. Quelques heures plus tard, alors que la jeune fille est en cours d'esthétique, sa sœur arrive et lui dit « Il y a eu un accident. Brent est mort. » À partir de ce moment-là, le monde de Tini s'est effondré. Le jeune couple était marié depuis à peine 3 mois. Brent avait été retrouvé mort dans une cellule de la prison. Il avait reçu de nombreux coups de couteau. Tini nous confie.
Brent était toute ma vie. Il était drôle, beau et talentueux. Il chantait et jouait de la batterie. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je ne me voyais pas continuer sans lui. Ce fut terriblement difficile.
Tenny et les autres proches de Brent ne s'imaginaient pas qu'à compter de ce moment, ils se retrouveraient mêlés à une affaire judiciaire qui dure désormais depuis près d'un quart d'un demi-siècle. Le procès d'Albert Woodfox, d'Herman Wallace ont été entachés de graves irrégularités. Leur condamnation reflétait les discriminations et la corruption généralisée régnant au sein du système judiciaire de la Louisiane. Un troisième homme, Robert Keane, a été accusé d'avoir fomenté l'assassinat du gardien depuis une autre prison.
Fort.
Tous trois ont été placés à l'isolement à la suite du meurtre. Ils sont connus sous le nom des trois d'Angola. À la suite d'un rebondissement inattendu, Tenny a commencé à se battre pour obtenir justice, non seulement pour son mari, mais également pour les hommes déclarés coupables du meurtre de celui-ci. Alors, on explique un peu ce qui s'est passé à cette époque. Donc, à cette époque, la plupart des gens qui habitaient à Angola travaillaient autour de la prison. C'était un établissement carcéral construit sur des ruines d'une plantation nommée Angola, d'où le nom, où avaient travaillé des esclaves, et cet endroit était connu pour des traitements brutaux infligés aux détenus. Le racisme, à ce moment-là, était omniprésent derrière les hauts murs de béton de cette prison. Les détenus faisaient l'objet d'une ségrégation ethnique et les gardiens étaient exclusivement blancs. Le nombre de meurtres et de viols y était endémique. Et parmi la centaine d'hommes incarcérés à Angola se trouvaient donc Albert Woodfox, Herman Wallace, deux Afro-Américains condamnés pour vol à main armée dans 2 affaires distinctes. Souhaitant améliorer la condition carcérale, ils avaient fondé une section du parti des Panthères Noires, un mouvement révolutionnaire rencontrant un grand succès à l'époque. Mais leur militantisme avait déplu à la prison. Presque aussitôt après la découverte du corps de Brent, qui présentait de nombreuses blessures à l'arme blanche, Albert Woodfox et Herman Wallace ont été placés dans des petites cellules mal aérées. L'agitation régnait au sein de la petite communauté des employés d'Angola. Beaucoup voulaient des réponses et vite. Tenny explique alors.
Nous avons tous grandi là. Et que l'un de nous disparaisse comme ça, tout a changé. Angola par la suite. La méfiance s'est installée. C'en fut trop pour Tenny et ses parents. Ils sont partis afin de pouvoir assister au procès de loin. Un procès pour l'exemple.
Albert Woodfox et Herman Wallace ont clamé leur innocence. Et les irrégularités qui ont émaillé leur procès sont choquantes. Le ministère public n'a produit aucun élément matériel liant les deux hommes au meurtre de Brent Miller. Une empreinte sanglante trouvée sur la scène du meurtre a été utilisée comme élément à charge, bien qu'elle n'appartienne à aucun des accusés. Depuis le premier procès, il a été établi que les responsables de la prison ont suborné le principal témoin dans le but d'obtenir des déclarations incriminant ces hommes, et que l'État s'est abstenu de révéler des éléments relatifs aux parjures d'un autre détenu qui avait témoigné. D'autres témoins se sont rétractés. Robert King, le troisième, a finalement été relâché en 2001 après avoir placé 29 ans en prison. Pendant ce temps, Albert Woodfox et Herman Wallace ont continué à languir en détention à l'isolement. Des avocats, des détectives privés, des défenseurs des droits humains ont continué à œuvrer inlassablement en faveur de leur libération. En 2006, une enquêtrice, Billy Mizell, participant aux efforts en faveur de la libération de ces hommes, a frappé à la porte de Tini. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'ils avaient été victimes d'une erreur judiciaire. Tini nous explique.
Billy a dit qu'elle voulait discuter d'Angola. Je trouvais fascinant que quelqu'un veuille parler avec moi de ce qui s'est passé. Elle a commencé à me montrer des éléments de preuve. L'empreinte digitale ensanglantée. Le fait qu'elle n'appartienne à aucun des trois hommes. J'ai donc commencé à réfléchir. Et après avoir pris connaissance de tous les éléments, je les crois innocents.
Alors comme Sabine lit très bien, elle va vous lire, sur le site d'Amnesty, il y a un petit film où on voit Tini et qui nous explique un peu tout ce qu'elle a pu ressentir. À toi Sabine.
Je suis persuadée que les trois d'Angola sont innocents. J'ai examiné tous les éléments et personne ne pourra me convaincre du contraire. Ils sont innocents. L'accusation, sans doute,
nous dira
de nous reporter aux preuves et aux transcriptions. C'est ce que j'ai fait et je n'ai rien trouvé qui puisse prouver la culpabilité d'Herman et d'Albert. De savoir qu'ils ont passé toutes ces années là-bas, cela me fend le cœur. Cela me fend le cœur. Tout ce temps emprisonné alors qu'ils se savaient innocents. C'est inimaginable. Inimaginable. J'ai l'impression que l'État s'acharne sur eux parce qu'ils ont besoin de coupables et qu'ils croient rendre justice. En réalité, ils commettent une injustice depuis des années. Je pense qu'il faut que cela cesse pour que ma famille et moi puissions trouver la paix. Après avoir examiné les éléments de l'enquête, Billy m'avait apporté, je lui ai posé des questions et pour chacune d'entre elles, elle a pu me montrer ces documents qui peuvent prouver leur innocence.
Alors voilà où on en est. Donc allez signer, espérons qu'enfin Albert Woodfox va pouvoir être libéré. La justice est en cours, la décision va être prise, on pense fin mars, donc... manifestez-vous sur le site d'Amnesty, allez signer.
Voilà, encore une fois, on rappelle que c'est la pression qui peut faire changer les choses. C'est le nombre de signatures sur une pétition, bien sûr, qui influe. Et on rappelle l'adresse du site, www.amnesty.fr. Encore une fois, on vous le répétera dans l'émission, voilà. Mais n'hésitez pas à y aller pour vous documenter, pour signer, pour agir, pour y aller des pages et des pages de choses absolument très intéressantes.
Allez voir.
Pour se documenter.
Personne en danger.
Voilà.
Action, personne en danger. Et vous allez trouver... Albert Woodfox et le témoignage de Tini.
Voilà.
De
toute façon, c'est très. Et vos signatures ont du pouvoir. Voilà.
De toute façon, c'est très simple pour s'y retrouver sur le site. C'est très bien expliqué pour suivre les démarches. Voilà. Donc www.amnesty.fr. Renan, je crois qu'on avait déjà décidé de passer une bonne nouvelle pour commencer. Renan qui est en train de s'endormir à côté, derrière les boutons. On va l'accuser. Renan est en train de s'endormir derrière la technique.
Attends, je peux même plus me cacher derrière un micro.
Donc, Renan, il y avait une bonne nouvelle que tu devais nous dire pour commencer de positivement cette émission. Allons-y.
Ah, mais attends, je ne commence pas par la bonne nouvelle, je commence par mon message d'espoir que je lis tous les mois.
D'accord.
Je fais ce que je veux. D'accord. Renan,
tu as raison, Renan.
Renan s'est réveillé brutalement et maintenant, il réclame son indépendance. Vas-y.
Alors, pendant ces nombreuses années passées dans les prisons russes, j'ai reçu des lettres de soutien. C'était très important pour moi et ça m'a aidé à survivre.
Alors, qui a dit ?
Voilà. Vous m'avez embêté.
Je m'en doutais. Dans les prisons russes ? Ça devait être un russe.
Il y a du monde dans les prisons russes.
Oui, il y a du monde. Oui. Notre ami Poutine, Sabine, notre ami Poutine en met beaucoup de gens
c'est
en prison.
C'est pas mon ami.
Moi non plus.
Alors, il y a quelqu'un qui a été libéré il n'y a pas très longtemps des prisons russes.
Non, c'est pas. Non.
Bah, c'est pas.
Bah, je ne le connaissais pas. Donc,
c'est bon.
C'est Mikhail.
Si, c'est celui-là.
Mikhail Godorchkovski.
Mais je ne saurais pas dire son nom, tu le dis mieux que moi.
C'est l'ex-manieur du pétrole russe, exilé en Suisse le 12 janvier à Zurich.
Voilà. D'accord.
C'est de ça que tu parlais.
Oui, mais je ne savais pas dire son nom comme ça. Donc
son nom
a
été cité longuement dans les médias, effectivement. Mais bon, c'est des noms russes, c'est toujours un peu compliqué.
Donc, quand même, il dit que les messages de soutien qu'il a reçus tant qu'il était en prison, ça a aidé à survivre. Donc
voilà, bah, toujours.
Il faut écrire, quoi.
Toujours.
Donc alors, on continue dans les bonnes nouvelles. Donc la décision prise le jeudi 20 mars par la Côte d'Ivoire de remettre Charles Brice Goudé, ancien chef de milice accusé de crimes contre l'humanité, à la Cour pénale internationale, donc la CPI, est une étape décisive vers l'obtention de la justice pour les victimes des graves crimes commis après les élections. Donc, alors, je vais faire une bonne
nouvelle. Faut rappeler, pour expliquer ce que tu viens de dire, Ronan, qu'effectivement, Amnesty ne se contente pas de réclamer la libération des innocents, mais elle réclame aussi l'arrestation et le jugement de gens qui ont commis des crimes, et en général d'anciens chefs d'État ou d'anciens responsables politiques qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et qui, eux, si on ne s'en occupe pas, continuent à mener une vie paisible en toute liberté. Voilà.
Oui, parce que là, je parlais de la Côte d'Ivoire, mais bon, je parlais même de République du Congo, c'est pareil, que la Cour pénale internationale, donc la CPI, a rendu vendredi 7 mars 2014 son jugement dans l'affaire concernant l'ancien chef de milice congolais German Gatanga, le déclarant coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans le district de Lituri, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Bien, on s'arrête quelques minutes, on écoute quelques notes de musique. Et on se retrouve juste après. Voilà.
Je demande.
Et
c'est parti. Thank you.
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux. On va reprendre notre petite émission et nos petites discussions autour des droits humains. On vient d'entendre les Rolling Stones. C'est un grand classique qui s'appelle Sweet Virginia. Je dis un grand classique parce que Ronan vient de me dire qu'il ne connaissait pas le morceau.
Et pourtant, donc, je connais voilà. très bien les Rolling Stones.
C'est des, mais à l'émission précédente, on avait passé un morceau des Beatles, Revolution. Là, on a passé les Rolling Stones. Bon. C'était le retour de, la, de l'ancienne génération.
Ouais, on a des goûts un peu voilà. classiques quand même. Voilà. Hein, voilà, ouais.
Non, mais enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien.
C'est bien, c'est bien. C'est...
Voilà. Bon. Donc, retour à nos sujets...
C'est pour toi, Didier.
De, comment on dit, nos sujets...
Enfin, d'actualité. Pas,
d'actualité, merci, Sabine. Sabine, Edith.
Et après, c'est bien que je suis fatigué.
Je cherche mes mots et je me trompe dans les prénoms. Enfin, vous aurez remis tout ça dans l'ordre, on compte sur vous.
Je trouve que ce soir, ça part dans tous les sens.
Mais non. Donc, on a agi, vous avez peut-être vu, place du marché le samedi 15 mars dernier, c'était il n'y a pas longtemps. Mm. Vous nous avez peut-être vu aussi dans la presse, c'est Paris, un compte-rendu qui est paru dans Heure Info et dans Paris Normandie. Et donc, on a agi pour la Syrie. Donc, on a réuni une bonne cinquantaine de personnes. Et on a fait plein de photos avec des bougies, etc. En soutien au peuple syrien.
Ils ont écrit Syrie par terre et voilà. Ils ont mis des bougies dessus.
Voilà. Donc, c'était, on va vous rappeler, on en avait parlé à notre dernière émission, mais sans en dire beaucoup, parce qu'on était en pleine préparatif. Voilà. Le but de cette opération, qui a été relayée par un tas d'ONG à travers le monde, c'était de générer le maximum de photos, surtout, de soutien à envoyer au peuple syrien. Les photos, on ne les a pas faites du tout pour se faire plaisir, ni pour les conserver pour nous, mais on les envoie, ça a été fait dans la foulée, au peuple syrien, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, à travers les ONG qui sont présentes là-bas, et de façon à montrer au peuple syrien, qui subit la guerre civile depuis 3 ans maintenant, c'était la date anniversaire de ce triste jour, il y a le 15 mars, subit de la guerre civile depuis 3 ans, et donc c'était pour leur manifester notre soutien. Sachant que même en cas de conflit et en cas d'une misère aussi grande que la guerre chez soi, c'est toujours important de savoir que les autres pays et les autres populations ne nous oublient pas. Donc c'était le but de cette opération. On espère maintenant que le maximum de gens verront ces photos, mais c'est en cours.
Et on n'était pas les seuls. Hein.
Voilà. Voilà, on n'était pas les seuls. Alors je vais vous faire. Voilà. Alors nous c'était à Évreux, et donc je vais vous faire un tout petit résumé là, juste une page sur ce qui s'est passé dans le monde. Il y a quand même eu plein de choses. Toujours aux alentours du 15 mars, dans le monde entier, en Jordanie comme à Moscou, en passant par Washington, des milliers de personnes se sont mobilisées pour marquer le 3e anniversaire du conflit en Syrie, du 13 au 15 mars. En organisant des veillées aux bougies, des ballons rouges lumineux et en illuminant des lieux emblématiques, symboles d'espoir et de soutien à destination des Syriens. En France aussi, militants et sympathisants se sont mobilisés. En collaboration avec d'autres associations et la diaspora syrienne, les militants et sympathisants d'Amnesty International se sont mobilisés dans près d'une vingtaine de villes, dont Évreux, il y en a eu beaucoup d'autres. À Paris, l'événement s'est déroulé place du Trocadéro le samedi 15 mars à 18h pour une grande veillée de solidarité avec le peuple syrien devant la tour Eiffel, spécialement illuminée à cette occasion. Donc vous avez des photos. Vous pouvez aller voir sur le site d'Amnesty, il y a des photos. Il y a même nous, d'ailleurs, les photos d'Évreux, elles sont maintenant sur le site aussi. On y est, tout à fait. Sur la page Syrie, il y a toutes les photos de tous les rassemblements.
Et moi, je te les ai sur mon téléphone.
Ah, vous allez voir Ronan, il en a encore plus.
Donc sur la tour Eiffel, c'était marqué avec les Syriens, ce qui était le slogan. Ailleurs, c'est la colonne de Nelson à Londres ou encore le mémorial Lincoln à Washington qui ont été transformés en flambeaux d'espoir et de lumière en signe de solidarité avec les Syriens. Des veillées sont également parties du plus grand camp de réfugiés syriens, le camp Zaatari en Jordanie. Où il se passe des choses d'ailleurs qui sont effectivement dramatiques au niveau du droit des femmes sur place.
On en a déjà parlé,
on vous en reparlera sûrement. Il y a une action d'Amnesty pour défendre les droits des femmes qui sont hébergées dans ce camp parce qu'elles sont menacées des actions assez importantes. Enfin, des voix syriennes se sont jointes à l'appel des 116 organisations humanitaires et de défense qui ont participé à cette action. Je ne vais pas vous lire la liste, elle est trop longue.
Il n'y avait pas que nous.
Il n'y avait pas que nous, bien sûr, et heureusement. Ensemble, ils ont exhorté les dirigeants du monde entier à s'engager pour que cet anniversaire soit le dernier, que les Syriens passent dans de telles souffrances. Geneviève Guérégos a déclaré, Geneviève Guérégos, c'est la présidente d'Amnesty International France, « Les civils en Syrie ont été victimes d'un nombre inouï de violations des droits humains au cours des 3 dernières années et particulièrement dans le contexte des sièges armés qui se poursuivent actuellement. La résolution des Nations Unies pour l'accès humanitaire est une opportunité, qui avait été discutée juste avant le 15 mars, pour la communauté internationale d'agir avec détermination pour que les sièges soient levés et qu'un accès total et sans entrave soit donné aux organisations humanitaires indépendantes. Nous n'avons pas le droit de laisser cette opportunité s'évaporer sans la saisir. » Donc c'était une des actions d'Amnesty, effectivement. Et on rappelle quelques chiffres en conclusion de ce petit bilan. C'est que depuis le début du conflit, D'après les statistiques de l'ONU, il signale que pendant les trois dernières années de crise en Syrie, a causé plus de 6 millions et demi de personnes déplacées, 2 millions et demi de réfugiés en dehors des frontières de la Syrie, principalement d'ailleurs en Liban et en Jordanie, qui sont des pays, de tout petits pays très pauvres et qui sont obligés d'accueillir plus de 2 millions et demi de personnes. En France, il faut préciser qu'on avait donné l'accord, le gouvernement avait donné l'accord pour 600 personnes. 600 personnes, ridicule, honteux. Et que, alors, d'après ce qu'on peut savoir à l'heure actuelle, aucun réfugié syrien n'a encore été accueilli chez nous. Et que plus de 9,3 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire en Syrie. Il y a deux fois plus de réfugiés syriens aujourd'hui que de réfugiés rwandais pendant le génocide de 1994. Le nombre de réfugiés syriens dépasse également le nombre de réfugiés au cours de toutes les guerres en Yougoslavie entre 1991 et 1997. Donc voilà le petit bilan. Nous, on a effectivement fait tout ce qu'on pouvait ici. Et on remercie les gens, des associations et le public qui est venu poser pour les photos avec nous et qui est venu nous soutenir. Dernière info, il y a toujours une pétition, avant que vous le disiez après, je ne sais pas, mais il y a une pétition.
Mais vas-y, Didier.
Il y a une pétition toujours en ligne qui se termine le 10 avril, donc il faut se dépêcher pour aller la signer, qui va dans le même sens, qui est une pétition à destination de l'ONU pour lui rappeler ses obligations vis-à-vis de la population civile syrienne. Et donc vous allez toujours sur le site www.amnesty.fr, rubrique Syrie, vous avez la pétition à signer. Voilà. Eh bien, Edith et Sabine vont vous faire quelques petits commentaires aussi sur la Syrie en complément.
Alors, après les bougies pour l'espoir, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens signaient la pétition, ils allumaient une bougie. Hein, puis il y avait les pétitions photos. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment très... C'était assez...
Émouvant.
Émouvant, ouais. Donc, moi, je vais vous parler du dernier rapport de l'ONU concernant le recrutement d'enfants et la torture en Syrie. Hein. Les groupes rebelles syriens soutenus par les pays occidentaux recrutent les enfants réfugiés dans les pays voisins, tandis que le gouvernement syrien torture des enfants ayant des liens avec les rebelles, annonce l'ONU dans un rapport publié mardi. Dans le rapport, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, accuse les groupes d'opposition armée de recruter des enfants qui sont utilisés soit pour des tâches de logistique, soit dans les combats. Particulièrement préoccupants sont les cas de recrutement ou de tentatives de recrutement d'enfants au sein des populations réfugiées dans les pays voisins. La majorité des incidents sont liés au recrutement par les groupes affiliés de l'armée syrienne libre, l'ASL, ou par des groupes armés kurdes syriens, précise Ban Ki-moon. Beaucoup de garçons ont affirmé qu'ils avaient le sentiment qu'il était de leur devoir de rejoindre l'opposition, on peut lire dans le rapport. Et daté du 27 janvier, toujours dans ce rapport, les militaires syriens sont désignés comme en grande partie responsables des infractions graves constatées à l'égard des enfants. Selon ce rapport, les forces gouvernementales sont responsables d'arrestations, de détentions arbitraires et de tortures d'enfants. Entre autres violences, indique le rapport, les enfants sont battus au moyen de câbles métalliques, de fouets et de matraques en bois et en métal. Ils ont aussi été soumis à des décharges électriques, notamment sur les parties génitales. Certains ont eu les ongles des pieds et des mains arrachés. Le rapport mentionne aussi des viols ou menaces de viol et autres violences à caractère sexuel, des simulacres d'exécution, des brûlures de cigarettes, des privations de sommeil et une mise à l'isolement. Les souffrances endurées par les enfants en République arabe syrienne depuis le début du conflit, dont rend compte le présent rapport, sont indicibles et inacceptables. Les violations doivent cesser immédiatement, déclare Ban Ki-moon dans le rapport. Et effectivement, il y a eu plus de 2 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, qui ont fui le conflit syrien. Donc encore une fois, une drôle de manière de protéger nos enfants, les enfants, par les propres Syriens. C'est
une situation terrible.
On marche sur la tête. Il n'y a pas de mots.
Voilà, c'est terrible en Syrie. C'est terrible ce qui se passe vraiment là-bas. Et quand tu parlais, Didier, aussi, dans les villes qui sont sous blocus et les gens qui meurent de faim, vraiment, littéralement... Dans les villes, les gens âgés, c'est vraiment des conditions. Et
les convois humanitaires se font aussi bien de nourriture que de médicaments, se font attaquer.
Voilà, et ils sont très limités, quoi. Voilà. Donc en plus, si on veut essayer d'avoir malheureusement un regard un petit peu complet, on voit aussi ce que tu disais, c'est tous les Syriens qui sont partis de leur pays, qui sont allés se réfugier au Liban ou en Jordanie, les pays les plus proches. Donc on peut voir aussi, on continue sur la situation des enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir de la Syrie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, déjà, il y arrive pas mal d'enfants qui sont des enfants isolés, qui arrivent là simplement parce qu'ils ont passé la frontière. Et donc, très souvent, ils sont blessés, ils souffrent de souffrances psychologiques, aussi bien les filles et les garçons, et ils ont des stress, des troubles du sommeil. Donc ça, c'est aussi des rapports de l'ONU qui a été voir dans les camps en Libye et en Liban, au Liban et en Jordanie. Et en plus, quelque chose qui est important et qui est soucieux, c'est que les enfants aident, des fois même à moins de 7 ans, aident leurs parents et travaillent de nombreuses heures pour des payes minuscules parce qu'effectivement, et le Liban et la Jordanie ne sont pas des pays riches et les familles qui arrivent là-bas ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc les enfants font des petits boulots, mais ils sont déscolarisés, c'est-à-dire que l'ONU est en train de faire un focus un peu sur la situation et en disant qu'il va peut-être y avoir malheureusement 3 ans de conflit, il va peut-être y avoir une génération d'enfants déscolarisés avec tout ce que ça peut comporter. Voilà, de générations en dehors d'éducation, en dehors de l'apprentissage. Pourtant, les enquêteurs notent que les enfants sont désireux d'aller à l'école et que les parents donnent une grande importance à l'éducation. Le peuple syrien est un peuple éduqué et il n'y a pas besoin de leur montrer l'importance de l'éducation pour leurs enfants, mais ils sont dans de telles conditions de dénuement qu'ils ne peuvent plus amener cette sécurisation pour leurs enfants. Le rapport constate qu'en dépit des conditions dans lesquelles ils vivent, ces jeunes, enfants, filles et garçons refusent d'abandonner actuellement leurs espoirs et leurs rêves. Leurs yeux s'illuminent lorsqu'ils disent qu'un jour, quand ce cauchemar aura pris fin, ils deviendront médecins, avocats ou enseignants. Donc voilà, on va rester sur cette petite note d'espoir des enfants, mais la situation est vraiment très, très, très difficile.
Et on conclura en rappelant que de toute façon, si effectivement on ne peut pas être nous-mêmes effectivement présents sur place pour les aider concrètement, c'est bien évident qu'il y a des ONG qui le font et qu'on doit effectivement être le plus possible de tout cœur avec les ONG. Mais qu'encore une fois, ces actions de solidarité à travers les photos qu'on a fait, les pétitions, les messages d'espoir, etc., etc., tout ça pour une population martyre, c'est fondamentalement important. Voilà.
C'est difficile de continuer après.
Oui, c'est un peu difficile de continuer après. Mais on va continuer.
Pour un bouquin.
Oui, alors il y a Sabine.
Et après, je vous abandonne.
Voilà, il y a Sabine qui va faire un petit. On va faire une transition là un petit peu à 360 degrés parce qu'on va vous parler un petit peu d'un bouquin. C'est Sabine qui va le faire parce qu'elle doit nous quitter un petit peu avant la fin de l'émission.
Ouais, ouais.
Donc on lui laisse quelques minutes avant de la mettre à la porte.
Moi, je croyais que le prochain sujet c'était la Corée du Nord.
Alors. Je m'éclate. Juste le cahier bleu, un livre de James A. Levin Pocket. James A. Levin est professeur et médecin. Et il a été mandaté par les Nations Unies pour enquêter sur le travail des enfants dans les pays émergents. C'est lors d'une visite rue des Cages, dans le quartier de Komatipura à Bombay, où exerce dans des conditions dramatiques une partie du demi-million d'enfants prostitués en Inde, qu'il voit une adolescente de 15 ans, en sari, rose, écrivant dans un cahier bleu. Il en tire Le cahier bleu, un premier roman puissant et dérangeant sur la prostitution des enfants, les nouveaux esclaves du XXIe siècle. Vendu à 9 ans par son père, Batuk n'a pour seul horizon qu'une unique rue de Bombay. Et pour toute compagnie, les clients qui viennent assouvir leurs pulsions sur une jeune fille dont le seul tort est d'être jolie. Mais au fond de la case qui lui sert de chambre, Batuk cache un véritable trésor, un petit cahier bleu qu'elle a réussi à dissimuler. Que peut donc raconter une prostituée de 15 ans dans un journal intime ? Il suffit parfois de quelques grammes de papier pour s'accrocher à la vie. Voilà, je vous abandonne. Bonne soirée à tous.
Tu nous
un
dis
petit
moins,
bisou personnel
le,
à Van et Mathilde, elles sauront pourquoi.
Tu nous dis au moins le titre parce que tu as dit ça tellement vite que personne n'a pu noter.
Le cahier bleu,
et c'est sorti chez qui?
Chez Pocket.
En quelle année?
En 2011, James A. Levin. C'est un très très beau livre.
Voilà. Bon, allez, conseille. C'est bon. On
voilà,
la laisse partir.
Bonne soirée, à bientôt.
À bientôt, Sabine.
Revoir, Sabine.
Et n'oubliez pas que vos signatures ont du pouvoir. Abusez-en.
Alors Didier, je crois qu'après, ça va être à toi.
Oui, alors effectivement, on va parler d'un autre sujet un peu... Alors je propose qu'on fasse une chose, parce qu'on n'avait pas trop discuté de ça avant de commencer l'émission.
Vas-y.
Mais on va essayer de diviser mon petit dossier Corée du Nord en deux parties, parce que sinon, après la Syrie, ça va faire effectivement beaucoup de choses un peu dures.
Je fais une petite pause entre les deux, t'inquiète pas.
Ou alors voilà, je vais commencer à en parler, on va faire une pause musicale et on va en parler après. Pourquoi je vous parle de la Corée du Nord? On a déjà évoqué le sujet. Bah, la Corée du Nord, tout le monde sait que c'est une dictature de régime de type communiste absolument, absolument infernale. On est amené à parler de la Corée du Nord parce que récemment, ces dernières semaines, l'ONU a publié un rapport. La commission des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport absolument qui condamne à 150%, on pourrait dire, le régime nord-coréen par rapport à ses atteintes aux droits fondamentaux, par rapport aux crimes contre l'humanité qui sont commis effectivement en Corée du Nord. Le rapport n'a pas été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, je vous le donne en mille.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un pays qui a fait barrage, qui a refusé effectivement de signer.
Alors, c'est
un petit quiz, on essaye de deviner
ouais,
ou pas alors,
un petit quiz, mais
un
rapide.
Un
pays près de la Corée, oui, tout à fait. C'est juste c'est à la frontière.
C'est à la frontière.
La Chine.
Sabine, tu étais. De toute façon, c'est où la Russie.
Sabine, tu étais partie, tu n'avais pas droit à la parole.
Voilà.
Sabine.
Donc la Chine a refusé de signer le rapport avec un argument absolument massu, parce que les principaux actes qui étaient listés concernant le régime nord-coréen dans ce rapport étaient principalement des témoignages de gens qui avaient fui le régime, et le représentant de la Chine a dit: votre rapport est nul parce que de toute façon vous n'avez pas enquêté, c'est pas des renseignements recueillis sur place, donc c'est des renseignements recueillis à l'étranger, sachant effectivement qu'enquêter en interne en Corée du Nord c'est absolument impossible. Donc effectivement c'était parfaitement hypocrite. Malgré tout, cette déclaration, c'est une des premières fois que la Corée du Nord est dans l'œil de mire de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et le rapport est absolument implacable par rapport au régime nord-coréen.
Voilà,
donc les choses avancent quand même.
On peut se rappeler qu'il y a la Corée du Nord, les camps ont fait partie d'une campagne aussi, où nous c'était les photos satellites.
Voilà.
Alors effectivement on n'y était pas, mais les photos satellites elles étaient bien claires,
voilà.
On voyait quand même bien les camps.
Voilà, tout à fait. Et c'était dans le marathon des signatures il y a 2 ans, en 2011, il y avait le camp d'Yodok effectivement qui en faisait partie. En même temps que publié ce rapport, dans les jours, il y a une émission qui est passée sur Arte, que moi j'ai enregistrée, ça passait tard le soir, qui était un témoignage émouvant d'un évadé d'un corps nord-coréen. Et c'est ce que je veux vous raconter. Alors, il y a plusieurs pages, mais bon, j'écris grand et j'ai résumé, donc ça va quand même
bon,
aller
si
assez
c'est
vite.
Trop long, vous le dites.
Voilà. Mais je vais vous le faire
on
en
fera
deux.
La pause.
Je vais vous le faire en deux fois. On fera effectivement une première partie tout de suite et une deuxième partie tout à l'heure. Donc cette personne s'appelle Donyuk Shin et il est né dans un camp qui s'appelle le camp 14 en Corée du Nord. Il commence son témoignage en disant « Je fais toujours des cauchemars ». Ça fait des années qu'il est arrivé, il a été interviewé en Corée du Sud, il a fui en Corée du Sud. Il a été condamné aux travaux forcés à 6 ans. Il est né dans un camp. Alors on peut se demander pourquoi il est né dans un camp. Parce qu'en Corée du Nord, quand les parents sont arrêtés pour raisons politiques, machin, etc., ce qui était le cas de ses parents, eh ben toute la famille est arrêtée. Et les enfants qui naissent, ils naissent dans les camps. Les frères et les sœurs sont emmenés dans les camps. Seuls les gens qui sont, entre guillemets, responsables des exactions, encore faut-il qu'il y en ait, savent pourquoi les gens sont dans les camps. Les autres ne le savent pas. Mais de toute façon, ils subissent exactement le même régime. C'est absolument extraordinaire. C'est la famille qui est condamnée. Ce n'est pas seulement les gens qui sont, entre guillemets, coupables. Donc, le premier souvenir qu'il a, et c'est ce qu'il dit, le premier souvenir qu'il a vers l'âge de 6 ans, c'est une exécution capitale publique. Parce que là-bas, effectivement, dans les camps, on tue les gens à tour de bras, de toute manière. Donc, ce qui a fait naître en lui un sentiment de panique. C'est-à-dire que,
à 6 ans, voilà, ça se comprend un peu. Comprendre. Hein.
Quand on est dans ces conditions-là, c'est sûr que psychologiquement, voilà, c'est difficile après de remonter la pente. Alors, dans cette même émission, il y avait une suite de dialogues, enfin une suite d'interviews. Il y avait à la fois ce Donyuk Shin qui parlait en tant qu'ancien prisonnier, et également des gardiens. Il y avait deux gardiens qui avaient fui, enfin qui avaient été gardes des tortionnaires.
Gardiens dans les camps
des tortionnaires sur place, et qui avaient fui pour différentes raisons.
et qui étaient eux aussi interviewés, qui avaient fui en Corée du Sud, et qui étaient interviewés sur ce qu'ils avaient fait eux en tant que gardiens. Et la comparaison entre les deux est tout à fait intéressante. Donc il y a des gardiens qui a dit « Les motifs d'enfermement, on en parlait tout à l'heure, les motifs d'enfermement sont futiles. » Par exemple, parler du président qui s'appelle Kim Il-sung à l'heure actuelle, enfin du président, du dictateur, et ne pas l'appeler camarade Kim Il-sung, c'est une raison pour être embarqué immédiatement dans un camp de rééducation. Et donc, encore une fois, on enferme toute la famille. Les gens ne savent pas pourquoi. Et généralement, les parents et les enfants sont séparés. Le but, c'est de traiter les gens comme des animaux. C'est ce qu'on leur dit aux gardiens. Et que la vie n'a aucune importance. Qu'ils ont eux-mêmes tout pouvoir de vie et de mort. Alors, ensuite, on revenait sur l'interview de l'ancien prisonnier, qui disait que, bien sûr, dans les conditions d'existence, la nourriture était... Le plat était unique, c'était du maïs et de la soupe au chou, trois fois par jour, 12 mois sur 12 et 365 jours par an, et que c'était donné en quantité tout à fait insuffisante, donc ils souffraient constamment de la faim. Et que leur seule... Alors ça, c'était absolument hallucinant. Leur seule façon de manger de la viande dans les camps, c'était d'attraper des rats, de leur enlever la peau, de les faire cuire et de les manger. On est au 21e siècle. Le gardien, après, dans la suite du film, le gardien réintervenait et il précisait une chose qui était aussi importante, c'est que malgré tout ça, il a constaté que les détenus ne se résignent pas, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le fait de pouvoir mourir dans ces conditions-là. Et que toujours, leur obsession, effectivement, des détenus, c'est de survivre à n'importe quel prix. Et que, bien sûr, dans ces cas-là, comme les ordres sont absurdes et sont absolument insupportables, ils obéissent aux ordres dans l'espoir unique, effectivement, de pouvoir survivre. Alors parmi ces ordres qui sont listés des règlements du camp, il est interdit de s'évader, il est interdit de voler, il faut obéir aveuglément aux fonctionnaires, sans savoir pourquoi, il est interdit d'avoir des relations corporelles, il est obligatoire de regretter la faute commise, pour ceux qui savent pourquoi ils sont là, entre guillemets bien sûr, et il ne faut surtout pas avoir d'opinion sur l'importance de la faute qu'on a commise. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une faute commise et on n'a aucun jugement à émettre par rapport à ça. Si on fait la moindre exaction par rapport à ces quatre points fondamentaux, on est fusillé sur le champ.
On a le droit de penser ?
Ben non, on n'a plus le droit de penser. Ils pensent pour toi.
Alors, les gardiens qui parlaient des conditions dans les camps précisaient aussi que les femmes... qui sont dans ces conditions-là, effectivement, ont comme espoir aussi pour améliorer au moins leurs conditions de vie ou peut-être à terme d'arriver à sortir, de se faire bien voir par les gardiens. Et comment on fait ? Si les relations sexuelles sont interdites entre les prisonniers, les relations avec les gardiens, effectivement, certaines se disent, si on le fait, on va se faire bien voir. Donc, en fait, les gardiens ont de fait un droit de violer les femmes.
Ah oui, c'est carrément, c'est même pas la femme qui décide. C'est vraiment un droit du gardien.
Un droit de violer les femmes, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ils sont couverts avant même de passer à l'acte.
Parce qu'eux, ils ont droit encore.
Ouais. Encore une fois, on est au 21e siècle, c'est en ce moment et c'est en Corée du Nord. Si jamais les relations sexuelles aboutissent à des grossesses, ça arrive, dans ces cas-là, la femme est purement et simplement exécutée. Et il y a un des gardiens qui raconte, et ça il le racontait face caméra, qu'il l'a fait, qu'il a eu des relations sexuelles avec une femme qui est tombée enceinte, et qu'il l'a tuée en la fouettant alors qu'elle était suspendue à un arbre. Voilà. Donc effectivement, donc quand on entend ça, effectivement, voilà. Alors je vais vous dire le paragraphe suivant, puis là on va passer un peu de musique. Après il parle effectivement toujours le gardien du supplice des enfants. Non, c'est le prisonnier qui parle du supplice des enfants. Il parle d'une petite fille qui était dans sa classe et qui avait soi-disant volé quelques grains de blé pour manger et qui avait été frappée par son instituteur sur la tête pendant des heures et des heures et qu'elle effectivement elle était renvoyée chez elle après. Et, parce qu'ils ont des petites maisons, des masures, si on peut dire, dans les camps, et qu'elle a été renvoyée chez elle après, et que le lendemain, ils ont découvert que cette petite fille était morte. Et que l'instituteur a dit, de toute façon, à la volée, c'est normal. Un peu de musique ? As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt
clever and despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career, when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free.
Bien, de retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International Évreux, c'était Working Class Hero et de Pink Green Day. Le disque en soutien à Amnesty qui s'appelle Make Some Noise.
Et tu nous parlais de, la Corée du Nord. C'était
bon,
terrible.
On est un peu pris par le temps, là, comme souvent, donc une heure, ça passe vite. Je vais vous faire un petit résumé sur tout ce qui se passait après. Bon, là, on vous a raconté absolument des choses assez insupportables.
Terribles, oui.
Je vous rappelle le titre du film, vous pouvez, à mon avis, encore le trouver sur Internet, peut-être encore sur le site d'Arte, je ne sais pas.
Allez voir.
Voilà.
Oui.
Le film s'appelle « Camp 14 dans l'enfer nord-coréen ». « Camp 14 dans l'enfer nord-coréen ». Et effectivement, ça dure à peu près une heure et demie, mais il faut prendre le temps de le regarder parce qu'encore une fois, ça se passe à notre époque. Donc après, le prisonnier, il raconte qu'il a pu s'évader.
Oui, comment ça s'est passé
voilà,
pour
qu'il
lui
avait, qu'il avait dénoncé sa mère. Alors, il avait dénoncé sa mère parce qu'en fait, il avait entendu parler que son frère, qui était aussi dans le camp, voulait s'évader. Enfin, il y avait une rumeur. Et que lui, comme on expliquait au début, pour essayer de se faire bien voir et se protéger. En plus, il était adolescent à l'époque, il avait 14 ans. Je rappelle qu'il est né dans le camp. Qu'il avait 14 ans, donc il a dénoncé sa mère à l'instituteur en espérant avoir un meilleur traitement. L'instituteur, en fait, a gardé le message pour lui. Donc, en fait, non seulement lui n'a pas eu un meilleur traitement, mais qu'il a été torturé après. Il a été mis en prison lui-même et torturé pour complicité de tentative d'évasion. Alors que, bon, c'était exactement le contraire. Et donc, ces tortures ont fait qu'il a eu des cicatrices partout sur le corps, qu'il a les bras tordus à l'heure actuelle parce qu'il lui tordait les bras avec des cordes. Ça a duré 6 mois. Enfin bref, etc., etc. Et il a rencontré à la suite de tout ça un nouveau prisonnier. Il savait pas très bien qui c'était. Il l'a jamais su. Quelqu'un qui en fait a été arrêté pour des raisons X ou Y, peu importe.
Oui, puisque personne ne sait pourquoi on est dans les camps.
Mais qui très rapidement, et son sympathisant, très rapidement lui a dit qu'il voulait pas rester, qu'il voulait s'échapper. Et un jour, alors qu'ils étaient en corvette bois à une extrémité du camp, à côté des barrières électrifiées. Parce qu'il y a des grandes barrières électrifiées, évidemment, qui empêchent tout le monde de passer. Et ben, ils ont foncé, tout simplement. Ils n'ont pas réfléchi. Enfin, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont tenté le tout pour le tout. Ils ont foncé dans les barrières électrifiées. Son ami est passé le premier. Il a été électrocuté immédiatement et il est mort dans les barbelés. Mais ça a créé un trou. C'est ce qu'il explique. Ça a créé un trou. Et lui, il a pu se faufiler par le trou. Il a été électrocuté aussi, mais moins gravement. Donc, il n'en est pas mort. Et il est passé au travers, il s'est retrouvé en Corée du Nord. Et là, il explique une phrase qui est absolument sidérante, c'est que se retrouvant en Corée du Nord, découvrant pour la première fois la liberté, les gens dans les rues, enfin, etc., même si on sait que c'est un régime où tout le monde
pique
tout le monde.
Oui, c'est quand même pas un endroit pour aller passer ses vacances.
Tout à fait. Mais lui, il dit effectivement, je me serais cru au paradis. Parce qu'effectivement, il quittait un enfer pour retrouver un pays qui
est... Un pays très dur à vivre, voilà. mais moins dur que dans les camps.
Qui lui apportait, enfin, il rencontrait des gens qui n'étaient effectivement quand même pas soumis aux mêmes extrémités de vie que lui.
Alors, de non-vie, tu veux dire.
De non-vie, voilà, tout à fait. Et donc, voilà, résumé très, 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 très rapidement son histoire. Bon, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que le témoignage des gardiens qui revient, qui était en parallèle, qui regrette, enfin, qui disent effectivement que s'ils avaient su, ils n'auraient pas fait ça, enfin, etc., etc., etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et ça m'a rappelé, moi, je finirai par un petit commentaire, pour ceux qui connaissent Hannah Arendt et la théorie de la banalité du mal, c'est exactement une illustration, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans certaines circonstances où on fait faire absolument n'importe quoi à des gens. Je crois qu'il y a une espèce de faculté du cerveau à se vider pour revenir aux pulsions vitales sans trop réfléchir, et qu'aussi bien les prisonniers que les gens qui oppriment ou qui torturent, effectivement, finissent par ne plus même du tout se rendre compte ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est simplement l'instinct de survie qui prédomine,
par rapport à n'importe quoi d'autre. Et c'est ce qui est un peu ce qui explique les uns et les autres en disant de toute façon on a fait ça. Comme lui quand il racontait qu'il avait dénoncé sa mère a été exécutée après devant lui. Enfin, je vous ai pas parlé de ça, mais sa mère a été tuée devant lui, etc. Et il raconte qu'à ce moment-là, il a rien senti parce qu'il dit cette phrase terrible: on m'avait jamais appris que je devais pleurer quand une mère meurt. Donc effectivement, c'est bon, et on peut trouver ça sidérant, mais c'est effectivement l'instinct de survie avec effectivement cette banalité du mal, c'est-à-dire que enfin du mal, MAL, hein, de l'insupportable, ça devient tellement le quotidien des gens. On a retrouvé ça dans les camps nazis, on a retrouvé ça dans un tas de coups, dans les goulags en URSS, enfin, etc., que les gens ne se rendent plus compte et que ben, voilà, ils finissent par supporter des choses qui nous écœurent, nous révulsent et nous donnent envie de vomir. Et que malgré tout, ben, le seul but poursuivi par tout un chacun, c'est survivre.
Alors juste pour dire, ça continue encore aujourd'hui.
Ça continue.
C'est ça le pire.
Voilà, ça continue. Donc soutenez les actions d'Amnesty. On avait fait une action il y a 2 ans qui n'est pas finie. On a remis des
millions. Et même si ce pays est très enfermé, on continue.
Voilà.
On continue.
Cette campagne sur le camp Yodok, c'était pas le même camp, mais enfin c'était copie conforme. On estime à l'heure actuelle qu'il y a entre 150 000 et 200 000 personnes en Corée du Nord sur une population de 25 millions d'habitants. Vous imaginez la proportion, 200 000 personnes qui sont actuellement dans des camps là-bas.
Alors, je peux juste faire un petit peu d'humour là, puisque nous, on avait les photos satellites pour la campagne. Vous entendez parler de cet avion qui s'est abîmé en mer. Oui. Et j'entendais que les satellites pouvaient montrer des détails tout petits. Donc, vous imaginez, les satellites actuels pourraient voir plein de choses.
Bien sûr.
Et on ne bouge pas.
Bien sûr.
On ne fait rien. Voilà, c'est juste mon petit point d'humour.
Je vous rappelle ce film, hein, parce qu'effectivement, moi, ça m'a pris des tripes au sens propre du terme. Camp 14, oui, dans l'enfer du camp Nord-Coréen. Il y a Edith qui me montre
l'horloge. Je regarde l'heure.
Il va falloir qu'on rende la tête. On avait une action à vous faire, mais je crois qu'il va être trop tard pour vous faire l'action. Non, tu peux en dire un mot ou pas?
Je vais la résumer rapidement.
Allez, vas-y.
Deux
minutes pour une action à faire. On vous rappelle un appel à l'action.
Donc, c'est un appel à l'action à faire donc, au ministre de la Défense d'Israël concernant les forces israéliennes qui ont tué au moins 22 civils palestiniens en Cisjordanie en 2013, principalement dans le contexte de manifestations. Au cours des 3 dernières années, quelque 261 Palestiniens, dont 67 enfants, étaient gravement blessés par des balles réelles tirées par les forces israéliennes en Cisjordanie, et plus de 8000, dont 1500 enfants, étaient blessés par d'autres moyens, selon les chiffres de l'ONU. Donc, si vous êtes intéressé par cette action, comme d'habitude, vous nous envoyez un petit mail.
Sur notre mail, qu'on rappelle?
Tout à fait, vas-y Didier, je t'en prie.
Amnesty, amnesty.evreux. @gmail.com.
Et le modèle de lettre est déjà fait, donc vous nous dites que vous êtes intéressé par l'action.
Vous envoyez votre mail, on vous renvoie la lettre par retour de courrier. Voilà.
Voilà.
Et il n'y a aucun problème. Donc c'est une action pour protéger la population syrienne.
Tout à fait, contre les actions
syriennes.
Palestinienne.
On parlait de la Syrie tout à l'heure, excusez-moi.
C'est Israël et la Palestine.
Et par rapport aux actions faites par les forces israéliennes là-bas, parce que j'ai un exemple, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de le lire. Mais donc,
voilà, et c'est un peu disproportionné, on va dire, entre Israël et la Palestine.
Ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Dès qu'on a des armes et le pouvoir.
Voilà, eh bien, on se retrouve dans 2 minutes, on va quitter l'antenne. Dans 1 minute maintenant, on va quitter l'antenne, déjà.
La prochaine émission, c'est quelle date?
On va dire au revoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, en direct ou en podcast. Et puis, notre prochaine émission, c'est ce que je regardais, effectivement, c'est le mardi 29, je reprends quand même, pour ne pas vous dire de bêtises, mardi 29 avril. Je vous confirme ça tout de suite. Mardi 29 avril, en direct, 19h-20h, sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Écoutez, bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée et juste une petite info. Apprenez à faire des bateaux en papier.
Oui, on vous en parlera le mois prochain. Il y a des bateaux en papier pour le ministre de l'Intérieur. Vous en saurez plus le mois prochain.
L'Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.